bienvenue sur Radio Galère au 88.4 dans l'émission « Et si on s'écoutait ?». Nous sommes le mardi 3 septembre 2024 et nous serons ensemble de 20h à 21h. L'émission sera diffusée, elle, jeudi de 9h à 10h et le podcast, lui, sera disponible sur le site de Radio Galère dans quelques jours. Dans cette émission, nous recevons aussi bien une personne qui, par son chemin de vie, explore sa relation à l'écoute ou un acteur de la société qui œuvre pour l'écoute dans la société et le bien-vivre ensemble. Il peut s'agir d'un acteur culturel, artistique, associatif ou même sportif. Tous les types de projets sont les bienvenus. D'ailleurs, si vous, auditeurs, vous nous écoutez, vous avez envie d'être invité à l'émission, n'hésitez pas à nous en faire part sur notre page Instagram. L'idée est d'illustrer par l'action ce que veut dire s'écouter, créer du dialogue, du lien dans la société. On explore un autre pan de l'écoute, celle des autres, et comment cohabiter en fonction des désirs de chacun dans le monde aujourd'hui. Je suis Chloé Lenders et je suis accompagnée de Marion Milsan en studio et de Sidi en régie.
Bonsoir.
On est très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième saison sur Radio Galère avec une riche programmation avec des invités ancrés à Marseille. Marion C, elle nous a quittés pour de nouvelles aventures. On l'embrasse très fort si elle nous écoute ce soir.
Bisous.
On pense à toi. Ce soir avec Marion Milsan, on est ravis d'accueillir Anis qui est tapiculteur entre Valensole et Marseille. Il va nous parler de lui, de son métier, des enjeux de son métier, de son rapport à la nature et de son entreprise Les Délices d'Anis à Marseille sur le cours Julien. Bonsoir Anis.
Bonsoir, merci pour l'invitation.
Bah oui, on est très heureuse. Comment tu vas ce soir?
Bah ça va, et vous?
Bah merci, ouais c'est vrai, on s'est pas demandé comment ça allait.
Je crois que c'est le premier invité qui nous demande comment on va.
avant qu'on se le demande déjà, ouais. Est-ce que ça va Chloé?
Oui, ça va très bien, je suis très contente de reprendre l'émission ce soir pour cette rentrée avec toi Marion. Ça va être une très belle année, j'en suis sûre.
Ouais, c'est vrai que Marion n'est plus là, mais du coup on s'est dit qu'on allait continuer cette émission toutes les deux. Mmh. Et on a plein d'envie pour cette année, plein de formes aussi différentes de l'émission. Mmh. Donc ouais, ça va être chouette. Et moi, ça va.
Comment vas-tu, ça... Marion?
Ouais, ça va, ouais. L'été fut bref, mais bien.
Bref et intense.
Intense, ouais, voilà, ouais. Oui. Pas que des trucs positifs, mais c'est cool. C'est cool et je suis contente de reprendre la rentrée avec toi, Anis, comme invitée.
Parce que toi, tu connais bien Anis.
Hein. Ouais, c'est mon frérot.
Vous connaissez depuis combien de temps?
Combien de temps ça fait, Anis, qu'on se connaît?
Je dirais quelques années.
Ouais, c'est vrai, ça fait quelques années. C'est une des premières personnes, entre autres, que j'ai rencontrées quand je suis arrivée à Marseille. Il y a 3 ans maintenant, un peu plus maintenant. Et voilà, et je suis contente que tu sois là face à nous. Et que tu nous racontes un petit peu tout ton parcours. Et ouais, merci d'avoir accepté.
Alors, première question, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que ça évoque pour toi le titre de notre émission « Et si on s'écoutait ?»
Ben, il est révélateur d'une société qui ne prend plus le temps de s'écouter. Si on vient à prendre des moments où, bien spécifiques, où on met le casque, les micros, c'est que voilà, on est dans une société où on a du mal à s'écouter. Et moi, c'est un dicton que mon père me disait, même si je ne suis pas toujours ses exemples, vous le verrez après. On a 2 oreilles et 1 bouche. Donc, même le corps humain montre bien qu'il faut 2 fois plus s'écouter et une fois moins parler parce qu'on n'a qu'une bouche et on a 2 oreilles. Ah. Donc ouais, votre titre me fait penser à ça, ouais.
C'est bien, j'aime bien ce dicton. Merci à ton papa.
Ouais, dis pas que des choses bêtes.
On va voir qu'au cours de l'émission, ton père a eu quand même une importance dans ton parcours et puis dans le début de ton activité d'apiculteur. En préparant l'émission, tu nous as un peu évoqué ton père, tu nous raconteras ça.
Bien sûr, avec grand plaisir.
Déjà, est-ce que tu as envie de te présenter, Anis?
Why not?
Tu es là pour ça en même temps.
Je suis là pour ça. Ben voilà, moi je m'appelle Anis. Donc, me présenter, ben, je suis un habitant marseillais, maintenant depuis quelques années, mais je suis natif de la Provence, de là où il y a les lavandes, les oliviers, même si Marseille, ça fait partie de la Provence. Je suis commerçant au cours Julien. Mais après, c'est des présentations un peu assez classiques.
Tu peux sortir du cadre.
Ouais, tu fais ce que tu veux, comment tu as envie de te présenter. Ouais. De toute façon, on a plein de questions. Donc,
Ben, j'aime bien l'idée d'être un petit un citoyen du monde. Je me sens bien dans ce titre-là.
Ouais. Voilà. Parce que tu n'es pas que apiculteur, on te présente comme ça, mais en fait, tu es plein d'autres choses. Et
Ouais, je pense qu'on est tous plein d'autres choses. Je suis le jumeau d'une jumelle, donc je suis venu sur cette planète avec une sœur jumelle. Je suis le dernier d'une fratrie de 5 enfants. Et voilà, je suis originaire de Tunisie et de l'Algérie pour le côté de ma maman et la Tunisie pour le côté de mon papa. Un amoureux de la Méditerranée. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire?
Et citoyen du monde, quand tu te présentes comme ça, tu entends quoi? Tu y mets quoi?
Je mets que pour construire notre monde, on fait partie de l'élément qui va construire ce monde-là, donc qui construit ce qu'on connaît, tout ce qu'on connaît. Donc c'est pour ça que je me mets en mode citoyen du monde, élément du monde même. Je ne sais pas si c'était clair.
Si, mais en tout cas, ça inspire, ça évoque des choses forcément pour nous et puis pour les auditeurs qui nous écoutent.
Et puis je trouve que c'est bien représentatif de qui tu es aussi. Ça ne m'étonne pas que tu te présentes comme ça. Anis, du coup, est-ce que, donc là, en effet, on t'a présenté en tant qu'apiculteur. Moi, je t'ai connu avec ton magasin, Odélice d'Anis. Est-ce que, et d'ailleurs, j'ai hâte que tu m'en dises plus, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément pris le temps d'en parler, mais comment c'est venu tout ça? Enfin, comment un jour, déjà, qu'est-ce que tu faisais peut-être avant le miel? Et puis, comment un jour tu t'es dit, vas-y, je vais lancer un commerce?
Alors, c'est une histoire qui dure maintenant. L'idée d'être dans les abeilles, déjà, c'est mon père, il avait quelques ruches dans le jardin. Et c'est vrai que mon père, il était un peu perso. Il voulait garder ça un peu pour lui. Donc, il m'avait toujours dit, tu n'ouvres pas les ruches, tu ne regardes pas. Voilà, c'était assez... il y avait un peu une sacralité dans tout ça. Et moi, du haut de mes 14-15 ans, j'étais curieux. Tu ne peux pas me dire, non, tu n'ouvres pas, sans pas me montrer.
Bonne
qualité. Sans pas m'expliquer, quoi. Et du coup, un jour, j'ouvre la ruche. Ma première rencontre avec les abeilles, c'était vraiment ça.
Tout seul?
Tout seul, sans équipement. Ouh. Chose à ne pas faire s'il y a des jeunes gens qui, qui nous écoutent.
Audacieux.
Ouais, très audacieux, ouais. Je me suis fait défoncer. C'était sur un talus. Donc j'ai sauté le talus, mais ce qui est marrant, c'est que j'avais plus peur de la réaction de mon père que celle des abeilles, même si je me suis fait éclater par les abeilles, il faut le dire. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis équipé avec ce que j'ai trouvé dans le garage et j'ai refermé la combinaison, la ruche, sans ni vu ni connu, quoi, avec quelques piqûres d'abeilles sur la tête, ouais.
Mais il s'en est rendu compte, ton père?
Il s'en est pas rendu compte, mais c'est une anecdote qui m'a marqué à vie avec les abeilles. Quelques temps après, pas très longtemps après cet exercice-là, peut-être un an après, je fais du stop pour aller à Valensole. Comme quoi, dans la vie, il n'y a que des rendez-vous, hein, comme ce soir, si on prenait le temps de s'écouter. Je fais du stop et il y a une nana qui était apicultrice, et qui me dit tout simplement, j'espère que tu n'as pas peur des abeilles, je transporte des rennes pour faire une insertion de rennes. Alors moi, je dis non, au contraire, j'aimerais trop connaître le monde des abeilles, ça m'intéresse trop, mon père il a des ruches et tout, moi j'ai jamais appris. Elle me dit, je ne sais pas c'est qui t'envoie, mais mon associé s'est cassé la jambe, est-ce que tu voudrais faire une saison avec nous? Et j'ai dit, ouais, avec grand plaisir. Donc ils m'ont pris 2 heures avec eux, j'ai fait... de la mise en pot, je suis parti voir un rucher, on a fait un prélèvement de pollen. Je me suis fait piquer parce que j'ai voulu faire un peu l'artiste sans les gants. J'avais une vareuse, mais je n'avais pas mis les gants. Et ça m'a plu. Et du coup, j'ai commencé à faire une saison avec eux, une deuxième saison. J'ai commencé à monter mon cheptel, récupérer des essaims à gauche, à droite dans le village, du matériel apicole qui me mettait gracieusement à disposition. Et de fil en aiguille, j'ai eu un petit cheptel. Et une autre date qui était importante pour la création du magasin, là c'était vraiment dans mes années un peu où je faisais l'apiculture en tant qu'amateur, en tant que passionné. Et à côté j'avais toujours un travail, j'ai eu plein de milliers de métiers qu'on peut dire. J'ai fait un peu de restauration, j'étais chargé de projet, j'ai fait commercial, enfin j'ai fait plein de choses. Et j'étais responsable d'événements, le dernier poste que j'occupais dans une entreprise. Et il y a eu le confinement.
Le fameux confinement qui a été
révélateur
pour beaucoup.
Ouais. Ouais. Et ben, moi aussi, ça a été révélateur. Même si j'avais ce projet toute ma vie, je me suis dit un jour, j'aurais un truc où je proposerais quelque chose de sain aux gens. C'était vraiment ça, la dynamique qui m'a porté pendant longtemps. C'était de proposer quelque chose de sain dans ce monde où le sain, il est presque que dans les cieux. Quoi. Mm. On le retrouve presque plus sur Terre. C'est pas vrai, mais voilà, c'est pour appuyer le clou que je dis ça. Donc, confinement, je voulais monter ce projet avec mon patron de l'époque, qui était très intéressé, mais je vois fil en aiguille, un mois, deux mois, je lui dis, bon, c'est qu'on commence le projet et tout, il veut pas. Donc, ça se termine assez violemment. Je prends la porte, je pars.
C'est toi qui pars, c'est toi qui prends la décision de partir et de...
Ouais, parce qu'il y a eu une altercation, je vais vous passer les détails, il y a eu une petite altercation, il ne comprenait pas pourquoi je voulais partir, il ne comprenait pas, il me disait mais si on va faire ton projet, mais moi je voyais que sur le fait, il n'y avait rien qui se faisait. Et au final, la vie a bien fait les choses, parce que je crois que c'était au mois de mai que je partais de cette entreprise. Ils ne voulaient pas nous payer parce qu'ils nous faisaient du chantage au salaire. Il y a des patrons comme ça. Et du coup, je suis parti. J'ai dit, c'est pas grave pour le salaire. Quelques temps après, je reçois une petite enveloppe d'un procès s'il y avait 10 ans auparavant, il y a eu ce procès. Je gagne ce procès. Et fin du mois de mai, je trouve le local à Marseille. Donc, tout était aligné pour que j'ouvre...
Ouais, comme quoi, la vie, c'est des rencontres, des choix et puis l'alignement de certaines planètes, des rendez-vous. Ouais.
Et tu disais donc, ton père, il avait ces ruches-là dans votre jardin. Est-ce qu'il en faisait du miel lui-même ?
Oui, il en faisait pour la famille. Petite production, mais voilà, il avait un lien avec les abeilles. Voilà, c'est un peu un autodidacte, mon papa, qui s'est battu pour une vie de poète arrachée, je dirais. Si je peux le présenter un peu comme ça, ça serait ça.
Il t'écoute.
Ouais, il n'a pas une vie très simple et du coup, ça s'est ressenti dans... Voilà, où il retrouvait sa simplicité, c'était dans son jardin et dans ses abeilles.
Et tu sais, ouais.
Allez-y, je prends les deux en même temps.
Attention, c'est parti. Tu sais d'où ça lui vient, cet amour pour les abeilles ou pas ? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'il a découvert un peu comme ça et...
C'est une bonne question. Franchement, je ne sais pas. Peut-être, si je lui pose la question, peut-être chez mon grand-père, il devait avoir des ruches. Mais il m'a dit, j'ai un souvenir, un flash souvenir, qu'il y avait un gars qui connaissait au travail et qui avait des ruches. Et c'était un truc qui le faisait kiffer vraiment. Et du coup, il a voulu installer des ruches dans son jardin.
Et tu penses qu'il a le même rapport que toi, enfin, il a eu le même rapport que toi, ce produit assez précieux, parce que tout à l'heure, tu parlais du fait d'avoir une activité saine qui soit vertueuse à la société. Tu penses qu'il le vivait aussi comme ça, ou c'était quelque chose qui était plus personnel et qui lui faisait du bien, parce qu'il passait du temps en nature et...
Ouais, je pense qu'il y a un peu les deux. Je pense que le produit en lui-même, moi, je dis, ce qu'elles nous donnent, les abeilles, c'est équivalent au-delà de l'or, quoi. D'ailleurs, ça a la couleur de l'or, le miel. C'est un produit qui est très bénéfique pour toute l'humanité. Une humanité au goût de miel, ça serait une humanité qui se sentirait beaucoup mieux.
D'ailleurs, comment philosophe et poète.
Grave. Et comment on crée ce rapport avec ces bêtes qui, au final, au début, te font mal et maintenant, tu les aimes, tes abeilles ?
Moi, je les ai toujours aimées, donc elles m'ont jamais fait du mal. Moi, je dirais même qu'elles m'ont sauvé.
Non, mais que tu disais ton premier rapport, c'est qu'elles t'ont piqué.
Ouais, elles m'ont piqué, c'est vrai. Mais je ne sais pas si c'était l'adrénaline, le fait d'avoir peur de mon père... Je garde un bon souvenir, c'est une anecdote que j'aime bien raconter.
Et aujourd'hui, vous partagez ça avec ton père ? Ou tu vis ça de ton côté ?
Ouais, je vis ça un peu de mon côté parce que voilà, mon père, c'est une ancienne école, c'est une autre méthode de travail. Et on a chacun notre caractère. Il y a des choses où on arrive à faire ensemble et malheureusement, il y a d'autres choses qu'on n'arrive pas à faire ensemble dans l'apiculture.
Et tu dis que le miel, du coup, il est fabriqué à Valensole. En quoi ce territoire, il a ses spécificités ? Parce que Valensole, on connaît pour la lavande. Est-ce que du coup, c'est du miel de lavande que tu fais uniquement ou... Il y a d'autres sortes de miel que tu fais.
On fait beaucoup de miel de lavande parce que voilà, toute l'activité est à Valensole. Bon, là, on a commencé avec Sarah, mon épouse, à mettre... à installer des ruchers pédagogiques sur Marseille dans les collèges. Là, on va avoir un deuxième collège. Donc, je fais une petite salutation au collège Auguste Renoir avec l'équipe pédagogique et l'ancienne principale, Madame M, qui ont fait un travail remarquable pour continuer voilà, donner ce flambeau aux enfants quoi, pour un monde meilleur, un monde au goût de miel, quoi.
Une éducation des publics jeunes, parce que tu vas peut-être nous expliquer aussi l'importance des abeilles, la pollinisation, l'importance que ça a dans la société, parce que c'est une espèce quand même en voie de disparition, alors qu'elles ont un rôle assez primordial dans la biodiversité aujourd'hui. Peut-être qu'on n'en a pas assez conscience, mais c'est intéressant que tu nous en parles. Mais d'éduquer ouais, les jeunes publics, c'est vrai que ça paraît hyper important.
Ben, moi, je pense que c'est l'avenir, c'est eux. C'est en plus moi j'ai de la chance, je suis tombé dans un collège dit populaire de quartier et ben je me sens complètement à ma place dans cet endroit-là assez jeune. Et en plus voilà, j'ai l'anecdote où voilà, il manque un outil, ben les petits eux-mêmes te disent non mais t'inquiète, ici c'est système D, on se débrouille. Et ça c'est... et le regard de tous ces jeunes gens, voilà, quand on parle des abeilles, ils sont tellement, tellement curieux, tellement intéressés. On sent que, voilà, ils ont une autre part de sensibilité que nous.
Parce que c'est des petits citadins pour le coup.
Ouais, c'est des petits.
À Marseille,
petits
ils sont
citoyens du monde.
Des
voilà.
Petits citoyens du monde. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est un public éloigné un peu de, peut-être dans le quotidien comme nous, hein, d'ailleurs, loin de la nature, mais tu y mets un petit peu de ça aussi dans cette ville.
Ouais, c'est exactement ça. Ils n'ont pas la chance forcément, à part en Algérie. Il y a beaucoup de petits Algériens et qui me disent oui, ben nous on a vu beaucoup d'abeilles en Algérie, donc ouais. Mais voilà, toujours plein d'émerveillement. Et même cet émerveillement, ils me le transmettent et moi je suis émerveillé de les voir, quoi.
Et toi, la création du miel, du coup, la fabrication du miel, tu l'as appris grâce justement à ces personnes que tu avais rencontrées en stop, qui t'ont un peu légué tout ça ?
Ouais, c'est exactement ça. J'ai fait deux saisons avec eux et ils m'ont tout appris, le métier, le rôle de l'apiculteur, pourquoi il faut entretenir, pourquoi il faut traiter, pourquoi il faut surveiller. Ouais, j'ai appris vraiment en autodidacte avec ce couple d'apiculteurs qui sont plus ensemble malheureusement.
T'es en lien encore avec eux ?
Je suis en lien, ouais, je reste un peu en lien, mais c'est très léger. Je suis un peu bouffé moi aussi par notre système qui fait que
D'où elle vient.
On prend pas le temps.
Mais ouais.
Peut-être pas assez. Ouais.
Mais ils savent en tout cas que tu as créé
Délices d'Anis. Oui, ils savent que j'ai créé Délices d'Anis. Ils sont venus, ils m'ont soutenu. Non. Voilà, j'aime pas l'histoire de l'élève a dépassé le maître, mais voilà, ce qu'ils m'ont légué, j'en ai fait au bon usage.
On a pris soin.
Ouais.
Mais c'est une histoire de transmission aussi, ces aventures professionnelles ou des histoires de vie aussi.
Ouais.
Et du coup, donc il y a 4 ans, tu crées les Délices d'Anis.
Ouais.
Déjà, le nom t'est venu tout de suite ?
Alors, Délices d'Anis, il y avait Anis Délices ou Délices d'Anis ou Délices de l'au-delà, parce que j'estime que le miel, c'est quelque chose qui est au-delà de tout, au-delà des... pareil pour les abeilles. Mais après, on m'a dit que c'était un peu prétentieux. Il m'a dit, mais c'est qui fait ce miel-là ? C'est quand même toi, il faut que tu mettes ton blaze. Donc j'ai dit, bon, ça sera les Délices d'Anis. Et ça sonnait bien, Délices d'Anis. Du coup, je suis resté sur ça.
Et donc, tu ouvres les Délices d'Anis il y a 4 ans ?
Ouais.
Seul ?
Seul, même si voilà, on ne s'entend pas sur tout, mais j'ai eu le soutien quand même de ma famille et de mon ami. Une petite dédicace à Jordi Bouy.
Oui,
il est là. C'est un de mes frérots. Ah ouais, c'est. Voilà, lui, c'est une abeille volante à lui tout seul. C'est un essaim. C'est...
Oh, c'est
tu le
joli.
Connais, Thomas ?
Ouais, c'est grâce à Jordi, en fait, qu'on s'est rencontrés.
Mmh. Ouais, lui, c'est le vrai citoyen du monde. C'est exemple à prendre, c'est vraiment sur lui, ouais. D'ailleurs, si vous voulez l'inviter, je pense qu'il serait très heureux de...
Il est en tour du monde, en tour de France, mais...
Il revient dans 15 jours.
C'est vrai ?
Ouais.
Il m'a pas dit. Mais oui, ouais, donc du coup, évidemment, soutenu par beaucoup de gens, de ton entourage, tout ça, mais t'as quand même décidé de créer ça. J'imagine que le local, tu le trouves et tu te dis, OK, let's go. Enfin, tu...
Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Encore une fois, c'est qu'une histoire d'alignement et de rendez-vous. Chercher, ça faisait quelques semaines que je cherchais un local pas loin du cours Julien. Parce que pour info, moi, je traînais beaucoup cours Julien parce qu'on faisait beaucoup de maraudes. Je suis du milieu maraude, maraude son nom exactement, Sourire pour les Anges, c'est des associations donc, où j'étais bénévole pendant longtemps. Et pourquoi je me suis installé à Marseille aussi, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je ne voulais pas faire d'ombre à ceux qui m'ont appris le métier d'apiculteur, même si le dicton dit « le soleil se lève pour tout le monde », je voulais faire vraiment ça ailleurs. Et quand j'amenais du miel en maraude, les gens ne savaient pas ce que c'était.
Bah oui.
Et ils goûtaient le miel, ils étaient un peu choqués. Ils me disaient « mais c'est quoi ça ?» Donc moi, ça m'a fait un court-circuit dans ma tête. J'ai dit « mais c'est ici en fait ». Et un soir, je vois un local qui se lève. J'ai dit, mais je regarde comme ça. Et je dis, ah, mais c'est ici, en fait. Et ben voilà, encore un rendez-vous. Il y avait des locataires qui avaient pris la location pour l'été. Et du coup, j'ai dit, non, mais moi, je suis trop intéressé par ce local. Et au final, ben, ils ont trouvé une autre location et j'ai pu prendre la location.
Donc du coup, sur le cours Jus, si les auditeurs nous écoutent,
ah, voilà, c'est
ils veulent venir.
Ouais, c'est 5 rue Bussy-l'Indien, entre la Plaine et le cours Julien. Première rue.
Vous pouvez pas le louper. Tout est jaune.
Ouais, comme
le
micro. Grande...
Ça a été refait. comme
le micro. Avec de la lavande dessinée sur les murs.
Ouais, il y a vraiment de la lavande. Ouais, c'est ça. Une abeille, hein, parce oui. que sans elle, on serait même pas là nous. Ce soir, on pourrait pas discuter de ça. Et en jaune, ouais, avec le logo d'Élise Danis, bien sûr.
Et donc se lancer quasi solo dans cette entreprise, Enfin, maintenant, après 4 ans, qu'en penses-tu, en fait ? Comment tu te sens ? Est-ce que tu as eu des épreuves plus dures que d'autres ? Est-ce que quand même, il y a eu aussi... Est-ce que tu vois ? D'ailleurs, tu sais, on parle souvent en ce moment que tout augmente, que les gens ont moins de sous. Est-ce que toi, tu l'as ressenti aussi ?
Ouais, malheureusement, ouais. Au cours Julien, entre la Plaine et cours Julien... On voit, on est un acteur social, hein, ouais. qu'on le veuille ou non. Voilà, nous, c'est quand même un territoire populaire qui se mélange. C'est bien, il y a un beau mélange. Mais voilà, il y a beaucoup d'écarts, il y a énormément d'écarts. Et c'est vrai que oui, il y a des clients qui sont des fois là en train de compter les dernières pièces. Des gens qui vont dire, ben, je ne vais pas prendre un gros pot de miel, je vais prendre un petit pot de miel parce que bon, moi, j'ai pas forcément le budget, mais ils ont quand même ouais, ils soutiennent l'apiculture, ils soutiennent les abeilles, donc ça leur fait du bien d'acheter un pot de miel chez l'apiculteur.
Ouais, ils veulent soutenir, ouais. Et puis ils savent aussi que c'est un produit assez enfin qui a plein de vertus.
Ouais.
D'ailleurs, en quoi pour les auditeurs peut-être qui les connaissent pas ces vertus, parce que c'est intéressant.
Il y a tellement de miels différents qu'il y a plein de miels, il y a plein de vertus différentes. C'est comme tous les humains, c'est comme les plantes. Voilà, le miel de Nigel, on va dire qu'il est bon, il soigne tout sauf la mort. Un miel qui vient d'Égypte, qui est fabuleux, qui est très bon. Le miel de lavande, c'est un miel pour la relaxation, c'est très doux, très bon. Le miel de garrigue, ben c'est bien pour la toux, parce qu'on va retrouver le thym, le romarin, c'est des miels assez épais. Enfin voilà, il y a plein de miels différents. C'est pour ça qu'il y a souvent des clients qui me disent « moi, j'aime pas le miel ». Alors ça me fait rire derrière mon comptoir, parce que il y a tellement de miels différents qu'il y a bien un miel qui va te plaire. C'est un peu comme les gens. Moi, j'aime pas les cons, mais peut-être il y a un con qui me sera sympathique. Voilà.
Et d'ailleurs, tu fais pas que du miel à Nice.
On fait pas que du miel, on fait plein de trucs autour du miel. Vraiment, le chemin, c'est le miel, les abeilles. Donc, on fait des bonbons au miel, des bonbons à la propolis, donc avec des confiseurs, des savons avec des savonniers. Après, on a ouvert un petit café. Donc, la boutique, c'est petit café où on peut boire des citronnades, des cafés, on peut manger des crêpes, thé glacé. La citronnade, il faut la goûter. Elle est vraiment exceptionnelle.
Je confirme.
Merci.
Et moi, je me posais la question, peut-être les auditeurs aussi, comment on fabrique le miel ? Comment ça se passe ? Quelles sont les différentes étapes ?
Ben en fait, c'est une relation entre la fleur, les plantes en tout cas, on va dire, les abeilles et l'apiculteur, on va dire. Donc les abeilles vont butiner plusieurs fleurs et il y a du nectar dans ces fleurs-là qu'elles vont récupérer par leur mandibule et qu'elles vont, elles vont récupérer dans leur estomac. Et avec leurs acides, elles vont le transformer en miel. Mais pour ça, il faut le passer entre plusieurs abeilles. On dit vomi d'abeilles, mais c'est pas vraiment... Enfin, il y en a...
Oui, c'est pas très élégant.
C'est pas très élégant, mais voilà, c'est comme ça qu'on arrive à avoir du miel. Et dès qu'il va être à maturité, ce miel-là, elles vont mettre une petite opercule de cire sur les alvéoles. Et nous, l'apiculteur, on va comprendre que le miel, il est bien là. Il peut être récolté. Parce que, voilà, il peut être plus humide. Et s'il est trop humide, bah, il va fermenter. L'ennemi du miel, c'est quand même l'eau. Et du coup, voilà, ils vont le ventiler pour qu'on soit toujours en dessous des 18% de taux d'humidité. Sur le miel. Je ne sais pas si c'était clair ou pas. C'est d'autres questions.
Et du coup, quand on dit du miel qui a été extrait à froid ou à chaud, c'est quoi la différence?
Alors, à chaud, c'est quand le miel il va cristalliser et qu'on va mettre soit une couverture chauffante autour d'un flux qui va remettre, parce que la cristallisation c'est un phénomène naturel. Le miel, dès qu'il va, il va être fini d'être extrait, il va figer, il va devenir dur. À part, c'est un peu comme la cuisine, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs écoles, pareil pour les apiculteurs. Il y en a, ils vont brasser le miel, moi c'est ce que je fais. Donc je vais garder du miel qui a cristallisé, et dès que je vais faire défiger un flux, ben, je vais le brasser avec, on appelle ça la semence, un miel qui a été cristallisé. Et donc le fait de le mélanger avec un miel qui a été cristallisé et un miel de la récolte de l'année, il va avoir des petits cristaux qui va rendre le miel très crémeux et que les gens les aiment bien. Donc moi, j'ai tendance à faire ça. Et à froid, ben, c'est quand le miel il va être brassé, par exemple, au Kirghizistan. Ils ont un miel blanc qui est très bon, qui vient des fleurs du sainfoin sauvage. Et eux, ils vont brasser ce miel-là, qui a une couleur un peu comme le sirop à la base, hein, un peu plus foncé. Et tellement ils vont le brasser dehors dans un endroit où il fait froid, relativement froid, ben il va s'éclaircir, il va devenir blanc et il va avoir une texture folle qui est très très bon, c'est un très bon miel.
Et comment tu sais, par exemple, qu'un miel, c'est un miel de lavande? Parce que, par exemple, j'ai cru comprendre que pour la lavande, il faut mettre les ruches à 3 km de la lavande.
Ouais,
donc
c'est
là, comme ça, on sait que c'est un miel de lavande, mais j'imagine qu'il y a tellement de fleurs. Enfin, comment savoir que le miel a sa spécificité?
Il y a des petits tips sur le miel de lavande. Si on ouvre le pot, on va voir l'odeur du beurre. Petit beurre. Et il a un petit goût sucré, acidulé vers la fin sur le miel de lavande. Mais pour le miel de lavande, c'est très simple parce que nous, à Valensol, il reste que la lavande. Donc, on sait que ça va être du miel de lavande. Donc, les os, on les aura enlevés si on aura fait une transhumance sur le châtaignier ou sur autre plante. Et quand on va les mettre sur la lavande, on sait que ce qui va monter à la os, ça sera du miel de lavande.
Et tu parles de transhumance, du coup?
Ou sinon, on fait analyser les miels aussi, excuse-moi.
Ok. Et tu parles de transhumance, est-ce que toi tu fais la transhumance, enfin, est-ce que tu déplaces tes ruches?
Alors au début je faisais un petit peu, mais pour être franc, avec une activité de café, épicerie, magasin et les abeilles, il m'est difficile de tout gérer. Donc ouais, je fais plus trop de transhumance, ils restent à Valensole. Ce que j'ai développé, donc, c'est les ruchers pédagogiques avec les enfants, parce que j'aime les enfants et j'aime bien transmettre, et que c'est ma part. Et voilà, comme on disait en introduction, il y a de moins en moins d'abeilles, même moi sur ma petite vie je le vois. Avant, une colonie avec une reine, elle pouvait durer 5 à 6 ans. Là, la même reine, quelques années plus tard, on fait le constat que si on veut garder une bonne production et que la population soit bien complète, cette même reine, elle va rester entre 3 à 4 ans.
Et tu t'expliques comment? Par le réchauffement climatique?
Par beaucoup de choses. Par le comportement des humains, par le réchauffement climatique, par les pesticides. Et plus général, moi, ce que je veux transmettre comme message, si je peux transmettre un message ce soir, c'est qu'il n'y a plus de vie nulle part, quoi. En fait, avant, je prends juste cet exemple, on délimitait les parcelles de terrain, on faisait des haies. On faisait des haies avec des arbres fruitiers, avec des plantes, entre les parcelles du voisin. Aujourd'hui, on met des murs, des grillages. Mais avant, ben, y avait plein de vie, en fait. Et c'est vraiment ça. Il n'y a plus de biodiversité nulle part. Parce que voilà, on va désherber pour
les cultures intensives aussi.
Ouais, les cultures intensives, les pesticides, les fongicides, la mauvaise communication entre agriculteurs et apiculteurs. L'apiculteur, il va aller poser ses ruches. Ben, le mec, l'agriculteur, il va dire, bon, ben, je ne vais pas le prévenir. J'ai décidé de traiter parce que bon, voilà, j'ai des acariens. Vas-y, je traite. Ben, je ne le préviens pas. On décime des ruches. Ouais, c'est une équation en fait, hein. C'est vraiment une équation, hein. Le varroa qui est importé, le frelon asiatique, les pesticides, le mauvais comportement des humains, et voilà, la planète qui montre
des signes
ouais,
d'alerte.
D'alerte, plus que d'alerte, là je crois qu'on arrive à un moment où il faut prendre la conscience de la note, quoi.
Et tu vas aller voir combien de fois, quand est-ce que, en fait, tu arrives aussi, parce que ouais. Je sais que tu n'es qu'un seul homme à Nice, mais... Combien de fois par mois tu arrives à aller voir tes abeilles ?
Ben, j'essaie d'y aller une fois par semaine. J'essaie de garder un rendez-vous à une fois par semaine, mais j'y arrive pas tout le temps. Mais voilà, la tendance, c'est celle-là. Mais après, voilà, ça m'est compliqué. Sinon, je demande le relais à mon père ou à des amis. Mais c'est vrai que...
Parce qu'il y a un traitement à faire. Enfin, c'est-à-dire, tu vas les voir parce que tu dois soigner les ruches, parce que tu dois... Est-ce qu'elles ne sont pas indépendantes et autonomes ?
Elles sont indépendantes, mais si on leur a mis une maison qui a été construite par l'humain, il est logique d'avoir quand même l'humain qui est là et qui régule, qui en prend soin. Par exemple, au printemps, il y a beaucoup d'essaimages. Ça veut dire que la population de la ruche, elle gonfle, et qu'ils sont trop à l'étroit. Du coup, il faut diviser la ruche pour refaire une nouvelle ruche. Par exemple aussi en fin août, là, septembre, fin août, on a la fin des floraisons et il y a l'arrêt de la ponte de la reine. Du coup, là, c'est bien de traiter contre le varroa, parce que le varroa, s'il rentre dans l'hiver, il peut faire des dégâts. C'est
pour ceux qui ne connaissent pas le varroa,
c'est une petite puce qui se met sur le dos de l'abeille et qui va détruire le système nerveux de l'abeille et qui va détruire les ruches. Donc ça, c'est un traitement qu'il ne faut pas rater, quoi. Pareil au printemps, c'est bien de rajouter des câtres pour que la reine puisse bien pondre, qu'elle ne se fatigue pas de se déplacer sur les cadres.
Je me permets aussi parce que je te connais un peu quand même. On parle beaucoup du miel, des ruches, des abeilles, mais t'es aussi, comme on disait avant d'être aussi apiculteur, t'es un homme, t'es un citoyen du monde. Je te connais aussi très engagé politiquement. Et est-ce que tu penses qu'un rôle justement d'apiculteur dans ce genre de société, notamment aussi dans une ville telle que Marseille, qui est quand même une grande ville où il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de mouvements. Est-ce que tu arrives justement à trouver ce rôle-là que tu as envie d'avoir, justement, de transmetteur, de personne qui va peut-être apporter de la plus-value, du bien ?
C'est une belle
en
question.
Ouais, peut-être un peu dur à répondre, mais politiquement, ça a aussi un effet, tu vois, d'être apiculteur de nos jours. Je trouve que, enfin, tu vois, je trouve que c'est aussi un choix.
Quelque chose, ouais. D'une certaine manière, bah, peut-être à travers.
C'est les gens qui devraient le dire. C'est ouais. Peut-être pas
là,
moi.
On le dit.
Mais t'as ton rôle à Marseille par rapport à ça dans le fait que tu transmets aux enfants. Peut-être tu peux nous en parler de quelle manière t'as ce rôle-là auprès des enfants.
Ouais, et puis même au-delà des enfants, moi. Qui suis venue plusieurs fois dans le magasin, t'es quand même... Annie, c'est un personnage, si vous ne le connaissez pas, vous allez bientôt le connaître, parce que tout le monde le connaît dans le quartier, tu fais vraiment... Et c'est ça que j'adore, entre autres chez toi, c'est que t'as vraiment à cœur que les gens aiment le miel. Je crois qu'au fond, tu t'en fous un peu quand t'achètes ton miel, il y a un peu un côté genre... Non, mais goûte, Yannis va passer peut-être 10 minutes et va perdre 10 minutes de sa journée alors qu'il devait faire plein d'autres choses pour que les gens... juste goûte au produit, qu'il soit là et qu'il découvre. Et je t'ai déjà vu juste très content alors que personne n'a acheté à ce moment-là, par exemple. Enfin, moi, je t'ai déjà vu, je me souviens, il y avait un groupe et tu leur as tous fait goûter. Ils sont partis et tu étais juste trop content de leur avoir fait goûter. Et ouais, tu as aussi ce rôle-là, pas que, en effet, avec les enfants, en tout cas dans la transmission avec les gens.
Ben, c'est sûr que maintenant que tu le soulignes, je le vois. Je suis quand même apiculteur, le représentant des abeilles. Elles n'ont pas besoin de représentants, elles fonctionneraient sans nous. Mais
On fait une collab comme elles font la collab avec les fleurs et les plantes. Quel imposteur je serais si je ne fais pas découvrir le miel et le monde des abeilles.
C'est beau. Voilà ce que tu dis.
Ouais, un acteur social, un acteur de la ville, créer du lien dans le quartier aussi. Comme tu dis, Marion, c'était un acteur aussi, à mon avis, important du quartier. À côté, il y a d'autres commerçants, mais il y a une vie qui se passe aussi au sein de ta boutique, qui se retransmet.
Ouais, et puis qui est aussi énergivore, ce que tu disais par rapport au quartier. Il est tout le temps sollicité. Et c'est vrai que ça aussi, tu vois, en parlant de l'écoute aussi, il y a un peu cette écoute aussi de sur-écoute, de sur... tu sais comment on dit quand on... Le mot m'échappe. Quand on sollicite, sur-sollicitation, tu vois, qu'on peut avoir et qui parfois, t'as juste envie de... Bah, de fermer la porte. Enfin, rien que tout à l'heure, je suis passée, je voulais juste faire la sieste, je suis rentrée et en fait, t'es...
Comment trouver l'équilibre dans tout ça aussi,
Ah, c'est l'exercice d'une vie, j'ai envie de dire, à trouver un bon équilibre qui te fait du bien. J'ai cette chance d'être un peu à Valensole parfois. Donc ça me fait vraiment du bien.
Oui, la place de la nature aussi.
Souvent on t'en parle. C'est très important chez toi.
C'est important, mais je pense que c'est pas qu'important. Il y en a, ils vont mieux le vivre, comme on le dit souvent avec Sarah. Il y en a, ils sont peut-être... Ils vivent mieux en ville, mais au fond, on a tous besoin de se connecter à la terre, celle qui nous donne tout. Sans elle, on serait pas là ce soir. Donc, c'est important, bien sûr.
C'est des parenthèses que tu t'accordes et qui sont un peu obligatoires parce que tu dois avoir les abeilles, mais c'est des parenthèses aussi qui te font, on imagine du bien.
Qui me font du bien, sûr, bien. C'est sûr que c'est trop bien. En plus, Valensole, je vous invite à aller voir, c'est magnifique.
Je ne connais pas du tout.
C'est un beau village, tout violet, en pleine saison. Donc, du 15 juin au 15 juillet, c'est vraiment là la période d'aller à la vente si vous voulez aller voir à Valensole. Et c'est un petit village que j'aime beaucoup, moi, Valensole. La vie, c'est que des rendez-vous. C'est là où j'ai fait du stop. J'allais voir des amis. Et c'est là où il y avait besoin de quelqu'un pour faire la saison. Moi, j'étais là. J'ai passé un bon moment.
Et du coup, au bout de 4 ans où les délices d'anis existent, est-ce que tu as des projets pour la suite? Est-ce que tu te laisses voir aussi où la vie te mène?
Alors un peu des deux, je dirais. Je me laisse voir où la vie me mène. Après, le projet ultime avec l'apiculture, donc ça serait de continuer à transmettre un maximum aux enfants, enfin à toutes sortes de publics qui sont intéressés à connaître le monde de l'abeille, le miel, le métier d'apiculteur, n'importe quel public. Après, un projet que j'aimerais vraiment, c'est la route des miels. Donc, c'est un panneau qui est sur la devanture des délices d'Anis. Et ça serait la petite consécration. Ça serait donc d'aller voir tous les apiculteurs du monde sans aucune prétention, mais en visiter le maximum pour voir leur façon de faire, comment ils font leur miel, quelle race d'abeilles, est-ce qu'ils transhument. Il y a tellement de mille et une questions. Et du coup, faire un petit recensement de tous ces miels qui existent dans le monde. Et il y en a quelques-uns quand même. Donc,
D'échanger les bonnes pratiques, les connaissances. Toi d'ailleurs, tu échanges régulièrement avec d'autres apiculteurs ou tu es assez seul dans ton activité
Il y a un petit forum où je suis, donc s'il y a des questions, il y a quelques apiculteurs que j'aime bien, qui sont un peu plus vieux que moi, ça s'est toujours bien passé, où je pose des questions, Après, sinon il y a les forums, et après, quand t'es apiculteur, t'as ce bouquin qu'on te offre, quand t'as réussi à avoir tes galons, on va dire ça comme ça, c'est le traité Rustica, c'est le dictionnaire de l'apiculture, Il y a vraiment tout dans ce dictionnaire, donc dès qu'il y a quelque chose qui m'échappe, Je me mets un peu à la lecture, Et après, on apprend avec les abeilles aussi, on apprend... Et voilà, la consécration, donc, de cette cave à miel, comme j'aime bien l'appeler, cette route des miels, ça sera la dernière,
Ouais, c'est un très beau projet qui inspire beaucoup,
Puis moi, tu vois, je me dis, parce que là, donc, quand tu fais des transmissions dans les collèges ou dans les établissements scolaires... c'est quand même toi qui apportes, j'imagine, une ruche ou des abeilles, ou, tu vois, À quand un tour à Valence, tu vois, je sais pas où d'ailleurs, mais où tu pourrais, emmener carrément. Enfin, là, c'est toi qui arrives justement avec les abeilles, et ça serait aussi très chouette que ce soit à nous aussi de nous déplacer dans leur terrain. Et
bah, il y a un projet, ça, avec un adjoint au maire du 6-8, où ça serait vraiment un lieu ouvert à tous et à toutes, hein, vraiment à tout le monde. Hein. Où on verrait vraiment pas un musée, mais où voilà, on aurait un lieu où on pourrait faire de l'apiculture, on pourrait extraire le miel, parce que mine de rien, il y a énormément d'apiculteurs urbains en Marseille, et le réel manque, c'est qu'il n'y a pas de structure où on puisse récolter, extraire le miel. Et ça, donc j'ai discuté avec cet adjoint qui était en charge de la biodiversité, c'était un projet qui lui plaisait bien, donc peut-être un jour on aura un lieu sur Marseille où grands, petits pourront venir visiter le monde de l'univers des abeilles, tout simplement. Et
dans leur milieu naturel, c'est encore plus parlant. Ouais.
Ouais.
Et tout à l'heure, tu parlais aussi de la relation que tu peux avoir, que vous pouvez avoir les apiculteurs avec les agriculteurs,
ouais.
Qui peut être parfois compliquée, mais aussi beaucoup d'agriculteurs qui font appel à des apiculteurs pour assurer la bonne pollinisation des cultures.
Ouais.
Et d'ailleurs, ils louent des ruches, j'ai appris.
C'est vrai.
Toi, de quelle manière tu entretiens cette relation avec ces agriculteurs, s'il y en a ?
Moi, j'ai franchement, Valensole, c'est un petit village. Donc, c'est quelques familles qui se partagent le village, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai eu la chance, je suis tombé sur une vieille dame qui avait un terrain où il y avait des chênes truffiers, une truffière sur son terrain qui n'est pas très loin des lavandes, et des lavandes qui sont en bio. Donc, c'était ma chance et j'ai posé mes ruches. Sinon, je collabore pas trop, quoi, parce que... voilà, c'est deux états d'esprit différents.
Mmh. Oui, ça dépend peut-être de la région aussi. Ça dépend,
oui, ça dépend de plein de choses. Hein. Je parle pour Valensole. Mmh. Valensole, voilà, c'est juste un exemple. Il y avait un produit qui avait été arrêté en 99. C'était un pesticide qui était utilisé dans les cultures de maïs, qu'on retrouve encore dans les sols valensolais. Et pourtant, il n'y a jamais eu de culture de maïs à Valensole. Mmh.
Donc oui, ça dépend un petit aussi exemple. Peut-être le profil de l'agriculteur et puis ce qu'il fait, quoi. Et de quelle manière, le rapport à la terre, le rapport, sa philosophie à son activité aussi. Un agriculteur qui a une activité raisonnée, il sera peut-être plus...
Oui, mais malheureusement, à Valensole, tu en as quelques-uns qui ont des petites terres, toutes les grosses terres, et ça c'est souvent partout, c'est des gros agriculteurs, donc ils sont pas à la Confédération Paysanne, ils sont à la FNSEA, donc c'est des grosses structures, c'est plus le même monde.
Mmh. Et puis qui plus est, t'as mille casquettes, t'es pas juste apiculteur, t'es aussi commerçant, t'as ton commerce, tu fais plein de choses, et tu vis pas forcément à Valence.
J'aime bien les casquettes.
Ouais, à savoir pour le prochain anniversaire. Mais du coup, ouais, je pense qu'il y a quand même ce côté aussi où je pense que tu peux pas être partout.
Non.
Donc tu fais ce que tu peux et tu fais déjà beaucoup. Donc,
ça, c'est vrai que c'est... des fois, j'ai envie de faire plein de choses. Et ben ouais, faut se contenter de ce qu'on a et prendre le temps de s'écouter.
Oui,
ouais.
Et est-ce que tu peux juste nous parler de l'importance de cette pollinisation, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, je trouve quand même que c'est...
Ah, c'est très important, bien sûr.
Parce qu'elles pollinisent donc des cultures, mais aussi les fleurs sauvages, elles ont un rôle hyper important. Est-ce que tu peux nous expliquer de quelle manière et à quel point c'est important pour nous ?
Ben, en fait, sans ce petit insecte qu'est l'abeille, pas que l'abeille, hein, toute la famille des abeilles, elles pollinisent tout ce qu'on mange. Tout ce qu'on a, c'est grâce à elle, et un peu grâce au vent aussi, parce que le vent il pollinise aussi en envoyant l'air. Mais elles, les abeilles, elles vont avoir un rôle en butinant chaque fleur. Dans chaque fleur, il y a du pollen, et ce pollen, elles vont le récupérer, elles vont en avoir partout sur leur corps, et elles vont le déposer de fleur en fleur, et c'est comme ça que y a le mariage, si on peut dire ça comme ça, des deux semences, des deux pollens qui vont faire la plante, Et c'est là que ça va pousser. S'il n'y a pas le passage de l'abeille ou du vent qui a amené, ou d'autres insectes qui ont amené ce pollen, ben la plante ne pourra pas pousser.
Ouais, ça permet à la nature de se développer, de continuer à se développer.
Ouais.
En fait.
Ouais, ouais.
Est-ce que justement, donc, tu t'intéresses quand même au miel depuis plusieurs temps ? T'es toujours autant. Est-ce que tu apprends toujours de nouvelles choses autour du miel ? Est-ce que.
Oui.
C'est toujours un domaine qui te plaît, quoi. Tu t'en es pas lassé.
Oui, c'est une science intarissable, l'apiculture. Tu as toujours d'autres méthodes, de nouveaux miels, des nouvelles méthodes de travail, des nouveaux fonctionnements. Non, non. Et moi, je pourrais rester des heures devant une ruche. Non, je ne me suis pas lassé du monde de l'univers des abeilles. Si tu l'as connu, tu ne peux pas t'en lasser, en fait, si tu l'as vraiment connu. Ouais, je pense que c'est la bonne réponse.
Est-ce que tu as un message que tu aimerais... voilà, tu as envie de profiter de la radio pour... si tu avais un message au monde à transmettre ce soir, est-ce que... Je sais que tu as plein de choses à dire. Mais est-ce qu'il y a un truc que t'aimerais justement partager avec ceux qui nous écoutent ?
Ouais, prenons exemple sur les abeilles, quoi. L'exemple que je vais donner, c'est là on est un peu, j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette tendance individualiste où on pense qu'à nous, un peu comme l'araignée. L'araignée, elle est capable de manger son mari, ses enfants si elle a faim. Les abeilles ne font jamais ça. Une abeille seule, c'est une abeille morte. Mais la richesse, la force de l'abeille, c'est l'essaim. C'est
le collectif.
Et c'est vraiment ça que je veux transmettre. C'est soyons tous des essaims, quoi. Soyons tous ensemble. Quoi qu'il arrive, on pourra porter tout ce qui est importable si on est tous ensemble.
C'est trop beau.
Ouais, le monde idéaliste qu'on aimerait bien voir, si on est tous ensemble, on sera capable de le construire, de le porter. Ouais.
Le collectif, et puis ça part de nous aussi. Peut-être qu'en ville, à Marseille, on peut planter plus de fleurs à nos balcons,
ouais,
pour que les abeilles puissent revenir et polliniser un petit peu cette ville.
Ouais, des sachets de graines, on jette des graines comme ça.
Trop bien.
J'aimais bien l'image, si je peux terminer dessus, c'est les bombes à graines. Dans ce monde où on n'en voit que des bombes, ben, le petit clin d'œil, c'est que tous ces petits, on avait fait un atelier comme ça où voilà, on faisait des bombes, mais non pas qui allaient tuer l'humanité,
non.
Mais c'est des bombes qui vont s'ouvrir et qui vont fleurir avec plein de plantes dedans. Mmh. Et ce serait bien de continuer dans cette démarche-là.
Merci beaucoup, Anis.
Ouais, merci beaucoup, Anis.
Est-ce que tu as une musique dont tu aimerais nous parler, à mettre.
À l'antenne.
Non, tu m'as dit laquelle. C'est Ibrahim Malouf,
voilà,
True Story. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi cette musique ?
Bah, c'est une musique que déjà Sarah, mon épouse, m'a fait découvrir. Et c'est une musique que j'aime beaucoup, qui apaise et qui fait vraiment du bien aux oreilles.
D'accord. Chloé, Anis ?
Mais merci beaucoup pour cette première émission et on vous souhaite une très belle soirée.
Belle rentrée à tout le monde, on se retrouve dans un mois.
Ouais.
Merci Anis, merci Sarah aussi de ta présence.
Très belle soirée.
Ouais.
Et belle écoute.